a abordé ce combat entre l'Éternel et le Pharaon, entre l'Éternel et l'Égypte et ses dieux. Et on va voir atteindre ce combat, le pic de ce combat, l'apogée de ce combat, dans les textes que nous lirons aujourd'hui, au chapitre 12 notamment. On a vu au fil des fléaux que Dieu envoie, ce cœur obstiné et suicidaire, cette attitude suicidaire du Pharaon, si bien qu'à vers la 9e plaie, il me semble, c'est même l'entourage du Pharaon qui lui dit « il faut arrêter la casse ». Arrête-toi, parce qu'on est en train d'aller en droit dans le mur. On voit cette lutte du Pharaon qui avait déclaré à la première demande de Moïse « Qui est l'Éternel ? Pour que je lui obéisse, je ne le connais pas, donc je ne vais pas laisser partir ton peuple. » Qui est l'Éternel ? Son cœur s'endurcit, il refuse d'obéir à l'Éternel et de laisser partir son peuple. Et cet affrontement va tourner à une sorte de combat à mort, on peut le dire. Et au chapitre 11, il est question d'un dixième fléau que Dieu va envoyer. Un fléau qui, lui, va atteindre son but. Dieu annonce, il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il est totalement fiable, il est souverain. Lorsqu'il dit, la chose arrive. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 33 ce matin. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Et nous lisons ensemble dans Exode chapitre 12. Nous lirons d'abord les versets 29 et 30. C'est page 75 dans la première partie de la Bible, dans le Bible rouge. Exode chapitre 12. Et nous lisons les versets 29 et 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison, et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva, ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. Un fléau terrible. On peut imaginer ces cris qui retentissent dans la nuit lorsque les Égyptiens trouvent une personne qui est morte, leur fils aîné. Et alors que chaque maison pleure un mort, nous lisons verset 31 et suivant, en pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il parte rapidement du pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir !» Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or et d'argent ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Soukhot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et menus bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Nous voyons ce peuple d'Israël sauvé par le jugement de Dieu. Dieu, en effet, vient juger le Pharaon et les dieux de l'Égypte. Nous avions vu ces différentes plaies, ces différents fléaux qui pouvaient faire référence, certains commentateurs le notent, entre différentes divinités. que Dieu soumet. Et le texte est clair dans le chapitre 12, verset 12. Dieu dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Le texte le mentionne précisément. Il est le seul Dieu. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Et c'est ce que Israël confesse dans sa déclaration de foi. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. L'Éternel fait justice. Il délivre son peuple de l'oppression exercée par les Égyptiens, cette oppression insupportable. Et il vient délivrer son peuple, qu'il appelle son premier-né, en frappant les premiers-nés d'Égypte. L'Éternel est juste. L'Exode, on l'a dit, c'est une grande histoire de rédemption. C'est une histoire de libération, de l'esclavage, de libération, de l'oppression. Et à ce titre-là, ces textes antiques ont été source d'inspiration, ont été source d'encouragement pour bien des personnes opprimées sur cette terre. On peut penser au XXe siècle, par exemple, dans la lutte pour les droits civiques, avec le pasteur Martin Luther King, et cette thématique de l'Exode, d'être libéré de l'esclavage, qui a été source d'inspiration. Mais nous avons ici plus qu'une histoire de lutte sociopolitique. Il y a plus. Parce que, en effet, l'Exode et la Pâque sont décrits dans la Bible comme une forme d'anticipation, une préfiguration d'une libération plus grande, celle de l'esclavage, du péché et de la mort. Le salut d'un jugement à venir. Et cette rédemption est accomplie par Jésus, notre agneau de la Pâque. C'est ce qu'affirme la Bible dans la première lettre aux Corinthiens. Jésus, notre agneau pascal. Les Israélites sont sauvés par le jugement de Dieu. Et regardez de plus près, nous comprenons que le peuple d'Israël est sauvé lui-même du jugement de Dieu. Lisons ensemble le début du chapitre 12. Verset 3. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et on choisira un agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Un peu plus loin, verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Vous savez, de nos jours, avec nos équipements de guerre modernes, les armées tentent de développer des armes qui vont permettre de frapper des cibles extrêmement précises. Si on essaye de frapper une batterie d'artillerie, on voudrait que ce soit juste cette batterie d'artillerie qui soit frappée et pas l'école maternelle d'en face. On veut des missiles ultra précis pour pouvoir atteindre seulement les objectifs ennemis et pas des civils. Et Dieu sait faire ça très bien, on l'a vu au travers de différentes plaies, où Dieu décide de ne pas frapper les Israélites. notamment lorsqu'il envoie les mouches venimeuses, les Israélites ne sont pas frappés. Lorsqu'il envoie une peste qui va frapper le bétail dans le pays de Goshen où sont les Israélites n'est pas frappé. Idem pour l'obscurité qui envahit le pays pendant 3 jours. Il nous a dit, il y avait de la lumière chez les Hébreux. Donc, Dieu a montré qu'il est le Tout-Puissant. Il règne sur tous les détails. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. C'est que pour être épargnés de ce fléau, les Israélites doivent faire quelque chose. Sinon, le fléau les atteindra. Les Israélites ne seraient pas épargnés du fléau s'ils ne suivent pas ses instructions. Dieu a donné des instructions très précises, on vient d'en lire un extrait, et ces instructions seront aussi à renouveler lors d'une fête annuelle, celle de la Pâque, où il sera question de reproduire tous ces ordres de l'Éternel. Mais ici, ce détail-là nous prouve que les Israélites, dans un sens, méritent tout autant le jugement de Dieu. Et c'est simplement parce que Dieu veut les épargner qu'il leur donne un moyen de salut. S'ils ne font pas exactement ce qui est dit ici, ils vont mourir. Le premier-né dans la maison va mourir. Et vous pouvez imaginer un petit peu l'angoisse des préparatifs. On dit, il faut exactement l'agneau pour la quantité de personnes qui va bien. Donc vous imaginez les débats. Alors quelle quantité pour chacun, les enfants, les parents? Est-ce qu'on partage avec nos voisins? Ensuite, de choisir l'agneau qui est sans défaut. Ok, t'as bien vérifié qu'il n'y a pas une tache quelque part. Vous imaginez, c'est leur vie qui est en jeu là. Et après, aller badigeonner. Et là, le premier-né de la famille, il doit être super attentif. Papa, t'as bien mis le sang, c'est bien comme il faut, t'as bien fermé la porte, on bouge plus. Vous imaginez le... C'est vraiment effroyable comme situation. Incroyable. Mais les Israélites méritent autant le jugement de Dieu. Et l'histoire subséquente nous prouvera qu'ils ne sont pas bien différents de ce cœur rebelle qu'on a vu bien mis en avant avec la figure du Pharaon. Mais dans quelques temps, les Israélites vont se bâtir un veau d'or pour l'adorer à la place de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Bientôt, ils vont commencer à se rebeller et à murmurer contre Dieu. À se plaindre, c'était mieux en Égypte, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Ils vont se retourner contre Moïse, le leader que Dieu leur a donné. Ils vont vouloir le mettre à mort, le lapider. Les Israélites, comme nous-mêmes, sommes pareils. On mérite autant le jugement de Dieu. Les Israélites ne sont pas simplement des victimes innocentes. Bien sûr, ils ont enduré un dur esclavage et Dieu fait justice. Dieu est juste. Il veut que les hommes exercent eux aussi la justice. Mais ils sont eux aussi des pécheurs méritant la mort. Et alors que ce dernier fléau va s'abattre, il y a un seul moyen d'y échapper. Le sang. C'est le sang. Ils sont sauvés par le sang qui est là, sur les linteaux de la porte. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et c'est la signification du mot en hébreu, en fait, Pessah ou Pascha. En grec, c'est la même chose, c'est passer par-dessus. C'est ça l'histoire. Pourquoi c'est Pâques? Pourquoi c'est Pessah? Dieu est passé par-dessus. La mort va frapper. Et il faut donc qu'il y ait un substitut qui prenne la place du premier-né. Et ce substitut que Dieu a ordonné, c'est un agneau pur et sans défaut. C'est lui le substitut, c'est lui qui va prendre. Et en même temps, qui peut penser, qui peut croire qu'un agneau soit un substitut suffisant pour un homme ? Personne. Pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'un homme meure. Un homme pur et sans défaut, comme cet agneau pascal. La Pâque, en effet, c'est le signe d'une rédemption, d'un acte de rédemption plus grand. Il faut bien plus qu'un agneau pour être sauvé. Et toute cette histoire du peuple d'Israël nous annonce quelque chose de plus grand. Plus d'un millier d'années plus tard, un prophète, Jean le Baptiste, déclare au sujet d'un homme, Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus a versé son sang sur la croix pour que nous soyons épargnés du jugement qui pèse sur nous. Comme l'écrit le prophète Ésaïe, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. L'apôtre Paul dira, nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Lorsque la Bible nous relate des histoires où un homme méchant est frappé par Dieu, ça ne nous choque pas, ça ne nous gêne pas qu'il y ait un homme qui lutte contre Dieu, Pharaon, qui cherche à mettre à mort son peuple, mais plein d'autres histoires où on voit des méchants, entre guillemets, que Dieu punit, ça ne nous gêne pas. Mais quand il s'agit de moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme Pharaon, je ne suis pas comme tous les méchants qui nous sont donnés en exemple. Je ne suis pas comme les terroristes du Bataclan, je ne suis pas comme les gens qui commettent des abus dans l'ombre, etc. Donc on se dit, moi ça va. Je ne mérite pas le jugement de Dieu, je suis quelqu'un plutôt bien, j'essaie de faire le bien, j'ai une bonne éducation, donc je suis attentif aussi aux besoins des autres. Moi, ça va. Et est-ce que c'est ça que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que la Bible nous révèle? La Bible nous révèle quelque chose de bien différent, mais on est pécheurs de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Il y a Ésaïe qui parle du peuple d'Israël, il dit tout est gâté, tout est pourri. Nous sommes pécheurs de la tête aux pieds. Et ça, on a tendance à le minimiser parce que on choisit notre échelle de comparaison. On va regarder ceux qui semblent être les pires des hommes et nous, ça va. Mais ce n'est pas le regard de Dieu. On raconte l'histoire d'un homme qui a assisté au procès d'un des derniers nazis, vous savez, pendant les années, les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on a tenté de mettre la main sur des nazis qui s'étaient cachés, qui s'étaient enfuis. Donc il y a eu des procès, notamment en Israël. Et lors d'un de ces procès, les journalistes interviewent un homme à la sortie du procès. L'homme est en larmes. C'est un juif qui assiste au procès. Il est en larmes et il pose des questions pour savoir un peu qu'est-ce qui suscite cette émotion. Et l'homme en pleurs leur dit au sujet du nazi qui est jugé, je pleure parce que j'aurais pu être là. Et cet homme a la lucidité, la clairvoyance de se rendre compte qu'au fond du fond, si les choses avaient été différentes, il aurait pu être là. Il aurait pu être cette personne qui est jugée pour des choses affreuses parce qu'il se rend compte que son cœur est pareil. Nous sommes pécheurs de la tête aux pieds. Et le péché, c'est grave. Notre péché mérite la mort, d'après la Bible. Pour paraphraser mon ami Mathieu Comarinos, qui est pasteur à la Gospel Church, mes péchés mignons ne sont pas du tout mignons. Cette jalousie qui peut envahir mon cœur, cette convoitise qui peut me faire vouloir cet homme, cette femme que je croise dans mon boulot, cette tentation de mépriser Dieu, de l'oublier, de vivre pour soi-même, de ne pas le suivre, notre orgueil, bien des choses, tout ça n'est pas mignon aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui est en horreur à Dieu. Le diagnostic de la Bible est clair, on est pécheur. Et c'est un problème parce que le péché c'est grave, parce que Dieu est saint. Dieu est saint, il ne tolère pas le péché, il n'est pas complice du moindre péché. Et il n'y a aucun péché en lui. Et en fait, se rendre compte qu'on est en vie à cet instant, c'est juste une grâce de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs et que Dieu pourrait, s'il le voulait, nous tuer de suite. Parce qu'on est pécheurs. Mais il ne le fait pas. Et c'est parce qu'il est plein de grâce et de bonté envers nous. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Les Israélites sont sauvés par le jugement de Dieu, ils sont en même temps sauvés du jugement de Dieu. Un seul moyen, le sang de l'agneau. Et pour nous aujourd'hui, j'aimerais poser la question, as-tu appliqué le sang de l'agneau pour sauver ta propre vie ? Il n'y a aucun autre moyen de salut, comme dans cette histoire. Il fallait avoir suivi tout ce que Dieu avait dit, et c'est le sang de l'agneau. C'est en Jésus seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est ce que la Bible dit. Rien que le sang de Jésus. Alors, t'es-tu placé par la foi au bénéfice sous le sang de Jésus-Christ, lui qui est l'agneau pascal qui ôte le péché? Autrement dit, l'as-tu accueilli comme celui qui peut te sauver, comme celui qui veut devenir ton maître, ton seigneur? Aujourd'hui, c'est une occasion de le faire. Si tu n'as pas fait, ne tarde pas. Je pense que les Israélites, là, ils n'avaient pas tardé à faire ce que Dieu a dit. Parce qu'au milieu de la nuit, le jugement va frapper. Et il y a quelque chose qu'on a peut-être en moins, c'est qu'on ne sait pas exactement quand Dieu va décider d'exercer ses jugements, son jugement final. Mais c'est écrit, c'est vrai, et ça va arriver. Et la Bible nous dit, aujourd'hui est le jour du salut. Et si on n'a pas décidé de suivre Jésus, c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui. Pour ceux parmi nous qui avons, par la foi, saisi le salut de Dieu, reçu sa grâce en croyant en Jésus-Christ, Pierre nous écrit, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. À quel prix le Seigneur nous a libérés? Le prix de sang, la vie de son propre Fils. Et lorsque Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché, comme disait Mohamed tout à l'heure, il nous a appelés à une vie nouvelle parce qu'il nous a appelés à être libérés de ce maître qui est un tyran, le péché, pour se mettre à la suite de notre nouveau maître qui est bon et bienveillant, le Seigneur. Mais c'est notre maître. Et notre maître est bon, juste, saint, plein d'autres choses encore. Mais c'est là notre maître. Et Pierre, dans la même lettre que je viens de citer ici, dit « Tout comme celui qui vous a appelé est saint. » Lorsque la Bible nous dit qu'il nous a appelé, c'est qu'il nous a mené à la foi, mené à être sauvé. Celui qui vous a appelé, celui qui vous a sauvé est saint. Soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saint car je suis saint. Nous avons été délivrés à un grand prix. Nous sommes devenus le peuple de Dieu appelé à la sainteté. Dieu nous a aimés au-delà de toute mesure et il a payé le prix fort pour que nous vivions en nouveauté de vie à la gloire de ce Dieu saint. Je vous invite à un temps de silence. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Ce sang de Jésus, c'est cette vie qu'il a donnée à la croix. Pour tous ceux qui croient en lui, qui ont reçu son salut en lui. Et c'est ce que je vous invite à chanter ensemble, que nous puissions adorer Dieu et mettre notre appui, notre confiance dans le seul moyen de salut et nous rappeler le grand prix que Dieu a payé pour nous, afin que notre vie disent une adoration, disent une reconnaissance pour le grand salut qu'il nous a octroyé au travers du sang de Jésus-Christ.